Bienvenue à Escale 16-17, la Fulgence Blas au micro. Escale 16-17, oui, c'est la dernière de la semaine. Voilà, c'est vendredi. En cette première partie d'émission, c'est-à-dire juste après avoir planté le décor de l'émission, je vais recevoir Ivy, le précurseur du slam au Québec pour les 15 ans de slam québécois. Et puis à 16h15, Myriam Larache va nous parler de sport, le mondial de rugby féminin, championnat de fin de saison au tennis et football pour les uns, soccer pour les autres au Qatar, recrutement de supporters et la liste des joueurs blessés ayant déclaré forfait. Et en deuxième partie d'émission, c'est après la petite pause publicitaire, à 16h30, chronique comic book avec Christian Lacasse qui va nous parler de l'action comics, le numéro 1 et le début de Superman. Si vous voulez en savoir plus, en détail, restez à l'écoute. Alors, Ivy est déjà au bout du fil.
Bonjour, Ivy. Bonjour.
Bonjour, Ivy.
Bonjour, vous allez bien?
Je vais bien, Ivy. Ivy, tu peux me tutoyer quand même.
D'accord. C'est une habitude que j'ai prise.
Arrête là, non, on se connaît depuis belle lurette. Voilà.
Bien sûr.
Ok, comment vas-tu, toi?
Ça va bien, ça va très bien. Occupé, bien sûr, avec tout ce qui s'en vient, mais le moral est bien là.
Comme je te disais au téléphone, pour moi, c'est ton enfant, le slam québécois.
Oui, bien sûr.
15 ans.
15 ans, quand même.
Il a grandi, cet enfant, hein?
Oui, tout à fait. Il s'est répandu de Montréal à Québec, à travers à bien d'autres villes aussi au Québec et même à l'international. Quand j'ai commencé en 84, il y avait peut-être même pas 20 pays qui pratiquaient le slam. Aujourd'hui, on est plus de 70. Ça évolue, ça grandit, tant mieux.
Oui, bravo, félicitations à toi et merci. Tous ceux qui t'entourent, qui encouragent cette sorte de poésie, c'est de la poésie parlée, comme dirait l'autre.
Voilà, exactement.
Voilà, on n'a pas le papier devant soi qu'on lit son texte, non, on l'a dans la tête, dans la
cerveau. Oui, voilà.
Voilà, c'est ça qui fait la différence. Et puis bon, au début, c'était comme il a, comment dirais-je, l'instigateur, le précurseur mondial, oui. papy slam.
Oui. Marc Smith, bien sûr.
Oui, je ne sais même pas quel âge il a maintenant, lui.
Ah, mais écoute, il n'a rien perdu de sa force et de sa vigueur. Sur scène, il est toujours aussi flamboyant.
Oui.
Il a presque 75 ans, donc, mais il est d'une... il se promène à travers le monde, il porte la bonne nouvelle du slam, et voilà.
Donc, et il porte bien son nom, Papy Slam.
Voilà.
Alors, on revient sur les 15 ans de ton bébé, 15 ans de slam québécois, ça se fête, voilà.
Oui, voilà. Donc, plus habituellement, à chaque année, bien sûr, on organise le grand slam de poésie de la Ligue québécoise de slam. Donc, ça, c'est une fin de semaine où les slameurs qui ont été sélectionnés sur les scènes s'affrontent un peu comme si c'était les Jeux olympiques, si tu veux, de la poésie.
Oui.
Et jusqu'à ce qu'un gagnant, oui, c'est le public qui décide d'ailleurs, jusqu'à ce qu'un gagnant soit nommé et qui va ensuite aller à l'international nous représenter dans le même genre d'activité.
Oui.
Mais bon, pour souligner les 15 ans, plutôt que de limiter cela finalement mais à 3 jours, donc le vendredi, le samedi et le dimanche, qui auront lieu bien sûr le 18, 19 et 20 novembre prochain, là on fait un lundi, mardi et mercredi au Verre-Bouteille, qui est notre lieu en résidence où à chaque mois nous présentons les soirées de slam poésie.
Oui, c'est devenu la résidence maintenant. Avant, c'était quelque part là sur Mont-Royal.
Oui, c'était au Patrouvis, au-dessus du Bilcoun.
Oui, je suis passé quelques fois d'ailleurs.
Voilà, avec brio.
Ah oui. Alors, parlons d'abord de la soirée d'ouverture du lundi 14 à 20h.
Oui. Ça va être l'occasion pour les gens qui veulent voir l'équipe elle-même qui a été sélectionnée, l'équipe de Montréal qui va venir faire une petite prestation et ensuite, ça sera l'habituel slam de poésie où les gens qui se sont inscrits viendront déclamer.
Oui.
Et le lendemain, on fait, le mardi donc, toujours à 20h, on fait un petit spécial, on ouvre la porte en fait, on a déjà commencé à faire des liens avec la scène slam anglophone, mais là on va plus loin, on ouvre la porte aux paroles inou, y aura des slameurs danois, évidemment anglais, en créole aussi, on aura un slameur en créole, donc
les mots, le métis, là, il va faire un slam en créole.
Ouais. Et même, on va avoir un poème en alsacien.
C'est pas vrai.
Et oui, j'aurais voulu en avoir un en espéranto, mais la poétesse n'était pas disponible. Mais enfin, ça va continuer. On appelle ça les slams polyglottes. Donc, il y en aura un le mardi et le mercredi.
Ah, j'aurais aimé écouter une slam là-bas en allemand.
Ben voilà. Oui, hein, voilà. Entendre aussi parce que la poésie sonore, orale, qu'on peut entendre, c'est aussi le jeu des sonorités. Et ce que ça éveille en nous, hein, les sonorités ont déjà des... Et là, ben, comme ce sera dans des langues qu'on comprend pas,
oui.
Ben, la poésie pourra travailler, je dirais, librement dehors du sens. Et bien sûr, il y aura des traductions disponibles sur place écrites. Et puis, ben, le mercredi, je cède la scène à Nini Marcel, qui est notre double championne montréalaise. Ça fait 2 ans qu'elle remporte le titre.
On lui dit bravo.
Ben ouais, voilà. Mmh. Et donc, je lui ai dit, ben écoute, la soirée est à toi. Donc, elle va présenter ce qu'elle fait. C'est une comédienne de formation, mais elle est aussi... Elle écrit des chansons, elle fait des poèmes, elle a sorti un recueil de poésie, elle invite des gens, etc. Et voilà. Donc, ça, c'est le petit plus qu'on ajoute au vendredi et samedi à la Maison de la Culture Claude Léveillé, où oui. on pourra entendre les demi-finales et au Lion d'Or le dimanche soir.
Oui, wow, génial, génial, génial. J'aime bien la soirée du mardi, soirée polyglotte, là, c'est vraiment parce qu'on a le plus d'entendre tout ce qu'on entend ici, on entend dans nos langues, dans la langue de la belle province en français. Bon, mais déjà, à Inou, j'ai déjà entendu, ouais, d'accord.
Oui, ben moi, j'ai travaillé avec une Inou aussi, pour qui j'ai écrit quelques textes.
Oui.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes ces langues se retrouvent grâce au français.
Oui.
Parce qu'ils vont aussi slammer en français. Donc, mais il y aura ce poème. Donc, c'est intéressant de voir que il n'y a pas d'opposition réelle, en fait, entre l'espèce de français identitaire qui s'attaque à l'immigration. Non, ici, le français permet à l'immigration aussi de participer au grand projet qu'est le Québec français, etc.
Merci de le souligner, d'ailleurs.
Oui, mais on le dit pas assez, parce qu'évidemment, je ne sais pas pourquoi, mais en général, les journalistes aiment ça, peut-être qu'il y a des débats, parfois un peu stériles, mais en fait, ici, ben, contrairement à la plupart des villes d'Amérique du Nord, ici à Montréal et au Québec en général, la langue qui nous réunit, nous rassemble, c'est le français,
c'est
pas une langue qui nie les autres, au contraire, c'est la langue commune qui permet à nous, francophones par exemple, unilingue francophone, de découvrir d'autres horizons, d'autres univers et de s'enrichir grâce à cela.
Oui, on est tous conscients qu'on est en minorité en Amérique du Nord, on est entouré de millions d'anglophones.
Voilà,
et puis bon, ben, si on se divise entre nous, ça vaut pas la peine.
Ben non, ça donne rien. Pourquoi se battre alors qu'on doit s'unir? Et bien sûr, quiconque parle français et a le français tatoué sur le cœur,
ça, c'est clair.
D'où il vient, peu importe les langues. C'est des grands écrivains comme Beckett ont écrit en français, mais elles n'avaient pas le français comme langue d'origine.
Oui.
Voilà,
oui.
Ça n'empêche rien.
Et Katia Rock, je ne sais pas, parce que je connais une Katia Rock qui est aussi chanteuse, guitariste.
Oui,
je ne sais pas si c'est elle.
Oui, c'est elle.
Ah, moi, d'accord, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de ces nouvelles. Je me suis dit, Katia est invitée pour chanter ou bien quoi, pour faire du slam.
Voilà, ben, slammer, chanter. Enfin, là, je ne sais pas si elle va pouvoir venir parce qu'elle est, je crois qu'elle est souffrante.
Oui.
Mais on l'espère encore.
On lui envoie une belle tonne d'énergie positive.
Oui.
Oui. Et puis, en danois, quand même, c'est spécial, hein.
N'est-ce pas? J'ai bien hâte d'entendre ça.
Comment ça va sonner?
Ben ouais, voilà. Et ben j'espère que cette initiative de Slam Polyglotte, je vais pouvoir la refaire assez souvent.
Oui.
Parce que je pense que c'est important qu'on puisse envoyer le message et que les médias s'en rendent compte aussi que le français est une langue qui rassemble et pas juste une langue qui divise. Il
n'y
a pas que l'anglais qui rassemble, tu vois.
C'est ça, c'est ça.
Le français rassemble aussi.
Et je prends la balle au bon. Merci d'avoir fait le pont entre les slammeurs francophones et anglophones de Montréal et du Québec,
voilà.
En général.
Voilà. Voilà.
Ça, c'est très, 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 très... Parce que c'est deux mondes complètement... Ils ont leur monde là-bas et on a notre monde à nous dans l'Est de Montréal.
Oui.
Et si quand tu es arrivé à faire ce pont entre les artistes, les slammeurs, les mettre sur la même scène, il n'y a rien de plus beau que ça.
Oui, bien justement, le mois dernier, on a invité la scène anglophone à venir sur notre scène et ben, on compte bien continuer ces échanges parce que dans le fond, on partage le même amour de la poésie. Hein,
oui.
Qui est le même amour du slam aussi, qui est de partager oralement la poésie et de la faire vibrer. Donc on est tous amoureux de cela et on poursuit le même but. Donc on veut montrer qu'en fait, oui, il y a l'anglais, oui, il y a le français, mais il y a la langue de la poésie aussi.
C'est ça. C'est comme les auteurs, compositeurs, chanteurs, interprètes qui ne parlent pas la même langue, mais qui se retrouvent sur la même scène et qui ont le même plaisir.
Absolument.
Oui. Alors, les éliminatoires.
Oui. On va parler... Eh bien, on a 6 villes, imagine-toi donc, 6 régions, donc l'Est du Québec, Rivière-du-Loup, Saguenay, Gatineau, Montréal et Québec, bien sûr, qui ont chacun 4 représentants.
Oui.
Et donc, ça fait 24 beaux poètes, slameurs, qui vont passer une première fois vendredi à la Maison de la Culture Claude Léveillé à 19h30. Là, c'est gratuit.
Avec réservation, hein?
Oui, avec réservation, exactement. Et c'est la même chose le samedi. Et ça donnera ensuite, ça nous permettra de couronner la ville ou la région qui pourrait dire « c'est la ville slam 2022 ».
Oui.
Et puis après, ben, le dimanche, c'est les solos. Alors, ce sera donc ceux qui ont réussi à s'imposer pendant les 2 premiers jours repasseront plusieurs fois. Et là, ben, on aura notre nouveau slameur, notre nouvelle slameuse de 2022, notre 15e déjà. Oui. Vous savez qu'aussi, on a remporté à 3 reprises la Coupe du Monde en France.
Oui.
C'est quand même bien de le dire parce que le Québec n'est pas un pays et qu'on est la seule région du monde à être à la Coupe du Monde.
Participer en tant que province, en tant que nation, mais pas en tant qu'État.
Mais on est un peu comme la francophonie, le Québec a une espèce de statut d'État.
C'est un statut spécial.
Voilà, à la Coupe du Monde de Paris, on a un statut spécial. Donc c'est bien quand même.
Et puis pour se décrocher ce trophée à 3 reprises, on dit bravo à toi et à toute l'équipe.
Ben, hein. Et le premier qui l'a décroché, c'est pas le moindre, c'est David Goudreau,
dont on entend beaucoup parler. Ouais, je me rappelle. Je me rappelle bien, j'ai dit grâce à Ivy, on a découvert pas mal de grosses têtes quand même du slam québécois, ça il faut le dire.
Oui, il y a Quinca, Amélie Prévost,
oui.
Il y a plein de gens, et les mots qui fait parler de lui, il y a des tracks à Gatineau, bref, il y a beaucoup de gens qui passent par la scène de slam, et c'est tant mieux, parce que le but, c'est quand même de rassembler les porteurs de parole, qui soient du niveau, tu sais, bien sûr avec une touche poétique, mais
oui.
Qui viennent du rap ou du conte ou de la chanson, mais évidemment tout ça sous l'aile de la poésie.
Oui.
Mais voilà, et partager notre parole ensemble, s'unir, hein, ça c'est vraiment mon but.
Merci beaucoup, comme tu as toujours su le faire d'ailleurs.
Ouais, ben c'est gentil.
Mais merci, non, tu as toujours si bien le fier. Fois que j'allais à tes événements, je te regardais, j'observais comment tu arrivais.
Voilà. Mais tu viendras au slam polyglotte si tu peux.
Oui, je vais voir. Oh, mais de toute façon, si j'arrive là, on va se saluer alors. Tu sauras que je suis là.
Voilà.
Allez, bon, les 2 dernières minutes qui nous restent. Ivy, tu nous parles un peu de la soirée, le cabaret au Lion d'Or.
Oui, ben, comme je le disais, bien sûr, c'est la finale solo, mais on va en profiter en même temps pour avoir des invités spéciaux, des invités surprises.
Mm-hmm.
On va en même temps aussi couronner la ville et couronner les solistes.
Oui.
Et on fera évidemment, c'est l'apothéose, si tu veux, de l'année. Il y a déjà beaucoup de personnes qui ont acheté leurs billets, mais il reste des places.
Il y reste des places encore.
Voilà, donc c'est sur la billetterie du Lion d'Or. Vous pouvez vous procurer les billets, mais tardez pas trop, en fait, parce que ça s'envole plus vite.
Ça s'envole très vite, oui. Alors,
plus vite que prévu.
Un dernier mot pour les dernières secondes. Ivy,
oui.
Si c'était à refaire.
Oui.
Les 15 ans, quand tu regardes, tu jettes un regard en arrière, si c'était à refaire.
Ah oui, ben je le ferai, c'est sûr, mais je le ferai avec encore plus de fébrilité et plus fort, parce que vraiment, je pense que les gens ont besoin de cette parole libre, libre et offerte à tous.
Merci beaucoup à toi.
Merci à toi aussi.
Et puis bon 15e. Il a grandi cet enfant, 15 ans.
Un ado maintenant, il fait sa crise.
Il fait sa crise. Allez, bon 15 ans à toi, Ivy.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir. Alors, restez à l'écoute en attendant que Myriam Larache vienne nous parler de sport. Parce que c'est le train qui coule, hein. C'est ça le direct. C'est le direct, voilà. Ivy, merci beaucoup à toi d'avoir mis sur pied il y a 15 ans, d'avoir été le précurseur, voilà. C'est toi qui as introduit fait découvrir le slam au Québec. Mais avant ça, c'était pas connu ici. Alors, et 15 ans maintenant, on se dit, voilà, ça, c'est pas 2 jours, c'est pas 15 minutes, c'est pas 15 heures, c'est pas 15 mois, c'est pas 15 semaines, c'est bien 15 ans, très bien compté. Alors, allez-y. Tout est partagé là-bas sur toutes les plateformes. Vous allez voir la programmation, qu'est-ce qu'il y a au verre bouteille, ça va se passer, ça se passe là-bas au moins une fois par semaine. Avant, ils étaient au Patrovice, maintenant c'est tranquillement là-bas au verre bouteille. Et puis bon, ben la finale, c'est le dimanche, oui, le 20, ça va se passer là, ouais, au cabaret du Lion d'Or. Allez, bon spectacle. Myriam Lala, j'ai déjà là, j'entends le bruit de son téléphone.
de mon petit bruitage.
Ouais, de ton petit bruitage. Bonjour Myriam.
Bon après-midi à tous, vous allez bien?
On va bien.
À la veille d'une tempête tropicale qui vient sur nous, à ce qui paraît.
Oh oui, bon. Oh non, écoute, parlons d'autre chose là. Quand tu me parles du beau temps, je suis d'accord, mais ne me parle pas de tempête tropicale.
Ok. Mais tu vas pas y échapper, Fulzon.
Non, je vais rester chez moi. Allez, on y va. Avec oui, le mondial du rugby féminin avec nos filles, je sais que tu vas nous surprendre encore. Et puis les championnats de fin de saison au tennis, et puis le mondial de soccer. Cette histoire de recrutement de supporters au Qatar, ça aussi, il faut voir mon visage ici. Hein. Et la liste des joueurs blessés ayant déclaré forfait.
Voilà.
Les
alors,
pauvres, les malheureux.
Les malheureux, oui. les pays malheureux aussi. Alors, oui. On va parler donc du rugby féminin, le mondial.
Où sont nos filles?
C'est ça qu'on a suivi depuis le début fidèlement.
Oui, tu nous faisais le résumé ici chaque fois. J'étais très content quand les filles jouaient très 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 bien, qu'elles gagnaient presque tous les matchs. Alors, où elles en sont, Myriam?
Alors, hélas, Fulgence, nos Canadiennes ont fini par céder face aux Anglaises en demi-finale.
Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai.
Les Red Roses, qu'on appelle les Anglaises, hein, première nation mondiale quand même et grande favorite de la compétition, l'ont emporté 26-19 face à une équipe du Canada pourtant accrocheuse et vaillante, il faut le dire. La rencontre, un déjà vu au passage de la finale du mondial de 2014, a commencé sur des chapeaux de roue avec 2 essais dès les 15 premières minutes du match. Quelque peu ébranlées, nos Canadiennes se sont accrochées quand même et ont fait douter même les favorites, car elles sont remontées. Elles ont tout tenté, mais en vain. Oui. Il leur reste donc la petite finale pour la 3e place.
Oh.
C'est dommage.
Mais mieux vaut ça que d'être été éliminé au premier tour.
Exact. Puis on va être bien classé. Puis on est qualifié directement pour le prochain mondial. C'est déjà bien.
Alors, c'est déjà pas mal.
C'est déjà, alors, la finale du mondial donc du rugby féminin entre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande se jouera déjà demain à guichet fermé, Fulgence, à l'Eden Park, Auckland. Parce qu'il paraît que c'est un record pour le rugby féminin.
Ça me surprend parce que ces deux pays sont dans ce panier à crabe là depuis fort longtemps.
Mais ça n'attire pas beaucoup de monde. Et cette année, à ce qui paraît, en Nouvelle-Zélande, c'est fou. Les gens capotent, excusez-moi le terme, sur le rugby féminin.
Oui.
Donc le terrain sera plein. L'Angleterre et la Nouvelle-Zélande s'affronteront pour la 2e fois consécutive en finale de Coupe du Monde quand même. Donc c'est des équipes qui se connaissent.
Voilà,
c'est un classique. Les Black Ferns, la Nouvelle-Zélande, sont en quête d'un 6e titre mondial et cette fois devant chez eux. Donc elles seront affamées, fulgentes.
Je ne suis même pas surpris, Myriam.
Oui. Puis demain, je pense qu'il va falloir regarder leur chant parce qu'elles sont effrayantes quand elles font leur chant. Elles intimident en face. Hein.
Ouais.
Alors, ça se passe demain. D'abord, la petite finale Canada-France pour la 3e place à 6h30 et la finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre à 9h30. Allez-y pour encourager quand même nos Canadiennes. Maintenant, on passe au tennis.
Oui.
C'était le week-end dernier, le championnat de fin de saison. Je ne sais pas si tu as vu ça, Fulgence, de la WTA, donc chez les dames au Texas à Fort Worth. Et ce fut une fin d'année en apothéose surprenante pour la Française Caroline Garcia.
Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'elle arrive là, en tout cas.
Exact. Personne ne l'attendait. Elle est 6e joueuse au monde. Oui. La 6e joueuse mondiale a remporté pour la première fois de sa carrière son plus beau titre en battant en finale la Bélarusse ta meilleure, Arina Sabalenka. Alors, qui est la tombeuse, elle, de Iga Swiatek?
Ah oui, ce Mike-là, je t'ai dit, Myriam, quand je l'ai vu, le résumé du match, je me suis dit, mais Iga, qu'est-ce qui va pas avec toi là maintenant là?
C'est pas terrible en ce moment. Alors, la Lyonnaise de 29 ans, donc, est la 2e joueuse française à être sacrée dans cette épreuve prestigieuse après Amélie Mauresmo, rappelons-le, en 2005. En remportant le plus grand titre de sa carrière, la Française finit depuis lundi à la 4e place mondiale. Incroyable. Et ce qui est incroyable, Fulgence, c'est que devine, en début d'année, elle était classée combien? 74e.
C'est pas vrai. Début d'année 2022.
2022, en janvier, elle était à la 74. À ce qui paraît, elle a reçu d'ailleurs le prix pour le meilleur retour hein, sur en classement. Elle a grimpé de 70 places, c'est phénoménal. Alors la grande surprise donc de cette semaine, regroupant les 8 meilleurs du monde, ce fut la sortie donc de Iga Świątek. Tout le monde la voyait en finale. Elle a été donc éliminée par Palenka. Et au premier tour aussi, la numéro 2, car on les avait placés tous les deux dans un groupe pour les voir peut-être en finale toutes les deux. C'est Anne Jaber, la Tunisienne, qui a craqué. Elle a perdu déjà pendant les séries et les tours éliminatoires. Alors voilà, mais elles garderont toutes les deux leur place. Elles restent, Iga Świątek, la première au monde. Et Anne Jaber, la Tunisienne, la
Jaber, oui, oui. Jaber reste la deuxième. Mais tu sais, le Zénith, tu ne peux pas toujours rester au sommet. Hein. C'est un sport individuel, ce n'est pas un sport d'équipe. Pour dire que si quand tu ça veut dire que quand tu t'affaiblis, tu t'affaiblis.
Exactement.
Quand tu n'as pas le mental, tu n'as pas le mental. Il n'y a personne qui est là pour te supporter.
Exactement. C'est pour ça que c'était surprenant de voir le Big Three ou le Big Four continuer pendant une décennie, être en tête de tout. C'était ça qui était surprenant. Personne n'arrivait à les déloger.
C'est fini maintenant, là.
C'est fini ce temps-là, quoique. Hein, on va dire quoique. Alors, le championnat de fin de saison ATP à Turin, il commence ce week-end, Fulgence. Il commence dimanche. Donc, en Italie, cette fois, c'est les hommes. C'est au tour des hommes de finir leur année.
Qui nous représente là-bas?
Ah, mais tu le sais très bien.
FAA.
FAA. Les 8 meilleurs au monde de l'année.
Félix Auger-Aliassime.
Mais le dernier Masters 1000 de Paris, qui a fini donc la semaine dernière, a bousculé le cours des choses. Écoute bien, Fulgence, et ouvre bien tes oreilles. Il y a eu des confirmations pour certains, des annulations, des heureux remplaçants et des soupirants de venir, et je vous explique comment. Alors, commençons par Félix Auger-Aliassime, qui a officiellement, en milieu de semaine, confirmé sa place. Je vous rappelle, je vous l'ai dit le jeudi dernier, en atteignant les quarts de finale et aidé par la défaite de Taylor Fritz, lui, l'Américain, bataillait avec lui pour cette place-là. Donc, il est sorti, Fritz et Félix Auger-Aliassime a confirmé. Mais vers la fin de la semaine, très compétitive, le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, qui était là, a abandonné en pleine demi-finale Fulgence pour déchirure abdominale.
Oui, quand j'ai vu les images, il me faisait pitié.
Ah oui.
Il me faisait pitié.
Le voilà qui déclare forfait pour Turin.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qui est heureux de cette affaire? Mais Taylor Fritz. Parce que le premier est parti, il est qualifié. Alors, il va partir à Turin, il doit sauter de joie.
Ouais.
Il doit sauter de joie.
On dit le malheur des uns fait le bonheur des autres.
C'est exactement la phrase topique à dire. Alors, qui s'est vu donc qualifié pour Turin, c'est fou. Et par ailleurs, le jeune Danois de 19 ans, Holger Rune, avec un master mis en poche, il rentre dans le top 10 et devine, parce que l'autre a glissé, il devient le remplaçant premier du tournoi. Donc, il est là-bas, lui aussi à Turin, en attendant que quelqu'un se blesse. Il doit prier, lui aussi.
Tu sais, quand j'ai vu sa victoire, là, je me suis dit, mais quelle insolence de jeunesse. Voilà.
Oh, exact. Bravo.
Ah oui.
L'insolence. Il est arrogant. Hein. Les gens lui reprochent d'être arrogant.
Oui.
Alors, tu sais que Wawrinka lui a dit, en lui serrant la main, en perdant contre lui en quart de finale, il lui a dit, arrête de faire ton bébé sur le terrain et ça ira mieux pour toi.
Voilà. Il va suivre les traces de l'Australien. Comment il s'appelle l'Australien là, l'autre là. L'enfant terrible.
Non, peut-être pas. Oui, Nick Kyrgios. Non, je pense pas. Celui-là, il est vraiment phénoménal.
Voilà, ça c'est. Moi, je l'appelle l'enfant terrible.
T'as vu ce qu'il a fait à Djokovic?
Non, qu'est-ce qu'il a fait encore?
C'est contre Djokovic qu'il a gagné. Hein,
D'accord.
Alors,
okay.
C'est incroyable. Il l'a éliminé. Voilà.
Mais Djoko n'est pas en forme. Il a manqué trop de compétition.
Il a manqué de matchs, donc c'est ça. Mmh. Alors, donc, que de surprises à surveiller à partir de dimanche 13 novembre sur RDS.
Ok, pour terminer, les recrutements concernant ces gens de soccer, là, et puis les blessés rapidement.
Rapidement, et on fera au fait la liste des blessés peut-être la semaine prochaine. Mmh. Alors, selon plusieurs témoignages recueillis par la presse française et les médias européens, les organisateurs du mondial au Qatar ont lancé une opération massive de communication visant des fans de soccer, et ça depuis 2020.
C'est du jamais vu, ça.
Oui, à ce qui paraît que non, justement. Des blogueurs, influenceurs, des clubs de supporters actifs et responsables d'association ont été interpellés pour être des fan leaders, dit-on, sorte de représentants du mondial. C'est une opération marketing qui n'est pas inhabituelle, à ce qu'il paraît, pour les grands événements sportifs ou culturels. D'ailleurs, certains TikTokers, que je les appelle, ou blogueurs sont entrés dans le jeu et ont accepté immédiatement. D'autres ont ressenti un malaise. Alors, il s'agit d'un rôle volontaire quand même et non rémunéré au départ, sans aucune obligation de partager des contenus fournis par le comité, avec des principes quand même à respecter. Le document dit « Vos opinions sont les vôtres, mais il ne serait évidemment pas approprié de dénigrer le Qatar, le comité d'organisation ou la Coupe du Monde. » En échange, eh ben, ils ont de nombreux avantages, ils ont des tickets pour des matchs, des événements, des cadeaux, etc. Mais, depuis 2 mois, figure-toi qu'ils ont encore poussé plus loin. Ils ont sélectionné 30 à 50 fans par nation qualifiée, triés sur le volet, qui s'appellent les Fan Leaders Super Extra, et qui sont invités tout frais payés, ceux-là, pour la cérémonie d'ouverture.
Billets d'avion, hôtel, nourriture, blanchi, logé, nourri.
Et plus une carte Visa en poche, prépayée, de $68 par jour. Et on leur dit même, est-ce que vous voulez rester 10 jours de plus si vous voulez?
Alors, après le sport, il faut partir, là. C'est parce que c'est pas les mêmes règles qui vont s'appliquer, là. Ils vont rester pourquoi?
Exactement. Alors, c'est ça que les gens, là ils disent, leurs gens, ben, on est acheté, quoi, pour aller là-bas. Surtout qu'on attend d'eux, cette fois, à ce qui paraît qu'ils doivent se lever, chanter, agiter les drapeaux au passage des caméras.
Oui, comme le font tous les supporters dans les stades.
Voilà, mais voilà. Ils ont payé cela.
De mon vivant, j'ai jamais entendu qu'on fait un recrutement de supporters, non.
Oh, je pense, Fulgence, qu'en Chine, il y a dû se passer des choses comme ça. Hein.
Ça, c'est entre eux, là-bas. Ils sont pas venus chercher des gens en Europe, ni en Afrique, ou bien quelque part d'autre. Ça se passait entre eux. Oui.
C'est ça, mais le Qatar est un petit pays, oui. Tu sais qu'ils n'ont même pas de fans, à ce qui paraît, pour leur équipe nationale. Ils ont créé une équipe nationale.
Mais c'est un sport qui n'est même pas un sport standard chez eux.
Exact.
Voilà.
Donc, ils sont allés chercher des fans ailleurs parce qu'ils n'en ont pas. Alors, ce que je trouve dommage, c'est qu'on les critique. Ils ont eu 10 ans pour critiquer ce Qatar. Et malheureusement, ils sont en train de les dénigrer à quelques mois de l'événement. Il est un peu tard, comme a dit un grand acteur célèbre. Il a dit qu'il fallait le premier jour jamais voter pour ce pays, il y a 10 ans. On ne voulait pas que ça se passe comme ça. Et ce n'est pas maintenant, à quelques semaines, qu'on commençait à dire « Oh là là !»
Non, surtout, comment ça s'appelle, Lucius La Blatta, il m'a tellement déçu avant-hier ou bien hier. Rapidement, les blessés, là, les blessés, on ne veut pas dire qu'ils sont frustrés, mais ils ne sont pas contents du tout d'être blessés comme ça à quelques jours.
Alors écoutez, la France qui est frappée durement, ses deux milieux de terrain, on le sait, N'Golo Kanté et Paul Pogba, sont blessés. Alors, il va devoir Didier Deschamps jouer. D'ailleurs, il a montré son équipe hier soir, à 22h. Il a sorti sa sélection de ses 23 joueurs. Alors, les deux milieux de terrain sont foutus. On a aussi l'Angleterre qui a deux coups durs, car ses deux défenseurs, Rhys James, blessé au genou,
Myriam,
et Ben Chilwell.
Oui, merci. Incroyable. On va revenir sur ça la semaine prochaine.
Exact.
Les blessés, qui sont obligés de déclarer forfait.
Surtout Sadio Mané qui est devenu une affaire d'État où même le président Macky Sall s'en est mêlé. Ça, c'est drôle. On va en parler la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Myriam.
C'est promis.
Bonne fin de semaine à toi.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, on va parler des comic books avec Action Comics numéro 1 et les débuts de Superman. Avec qui? Christian Lacasse.
Vous écoutez Escale 16-17 avec Fulgence Blas.
Oui, là, il est déjà avec moi en studio. Christian Lacasse, j'ai une belle...
En direct.
J'ai une belle couverture ici avec moi de Action Comics de juin, numéro 1, juin 1938.
Effectivement.
Bon, on n'était pas né, toi et moi.
Non, on n'était même pas un concept. Quand même. Mais ça fait des semaines.
Bonjour à toi.
Ben bonjour à toi, Fulgence.
Voilà.
Ça fait des semaines que je vous parle.
Et tu
as
nous fait découvrir aussi les débuts de Superman. Ça parle de ça.
Exactement. Ben, je vous en parle depuis des semaines.
Oui.
Action Comics numéro 1,
oui.
En 1938, les débuts de Superman. Là, aujourd'hui, je vais analyser de fond en comble cette publication. Là, j'ai apporté avec moi une reproduction. C'est tout récent. La compagnie DC Comics a décidé de reproduire intégralement Action Comics.
Le numéro 1.
Absolument.
Juin
1938.
Voilà, il faut préciser, le numéro 1.
Absolument,
le dixième numéro, là, le numéro 1.
Non. Mais si vous avez une véritable copie, une copie datant de 1938, vous avez un beau plan de pension. Je vous en parle.
Ah bon?
Parce que, oui.
Il va falloir que je me cherche une ancienne copie, alors.
Je vais t'en parler, justement, de la valeur de Action Comics.
Ah, bon, d'accord.
Vers la fin de la chronique.
OK.
Donc, Action Comics numéro 1, c'est publié par la maison d'édition National Allied Publications, avant de s'appeler DC Comics. C'est en juin 1938. C'est un comic book anthologie, donc, qui contient plusieurs histoires de personnages différents. et qui était vendu à l'époque au coût de 10 cents. Action Comics numéro 1 a eu un tirage de 200 000 exemplaires.
En 1938, 200 000 exemplaires.
Et toutes les copies se sont vendues assez rapidement. Aujourd'hui, c'est considéré comme le premier comic book de l'âge d'or du comic book américain. Parce que c'est le premier comic book de super-héros en bonne et due forme, avec le personnage qui est considéré comme le premier véritable super-héros, Superman, créé par Jerry Siegel et Joe Shuster. Pour vous situer, l'âge d'or, quand je parle de l'âge d'or du comic book, c'est de 1938 à 1956. On l'appelle comme ça parce que c'est à partir de ce moment-là que l'industrie du comic book prend son envol.
Ils se sont vraiment fait de l'argent avec ces trucs-là dans ça.
Oui, ben c'est justement à partir de ce moment-là que le comic book devient populaire aux États-Unis.
Okay.
Et c'est à ce moment-là qu'il est publié un peu partout. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, les maisons d'édition n'ont pas le choix de créer leur propre super-héros dans l'espoir.
Tout le monde lui avoir sa part du gâteau.
C'est ça, exactement. Oui. Et c'est pourquoi il y a des centaines de super-héros de toutes sortes qui vont apparaître vers la fin des années 30 et au début des années 40. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce Action Comics numéro 1?
Fais-nous découvrir ça.
En plus de la première aventure de Superman, je vais y revenir tantôt, on retrouve d'autres personnages, comme entre autres Chuck Dawson, une bande dessinée en noir et blanc, qui porte sur un cowboy du Texas qui prend sa revanche face aux hommes qui ont volé sa demeure. Aussi, il y a Zatara, Master Magician, qui s'en prend à son ennemi juré, la tigresse.
Ouais.
Aussi, il y a les aventures de Marco Polo. Pep Morgan, un athlète qui enquête sur des méthodes douteuses d'un entraîneur de boxe. Il y a plusieurs autres personnages. Mais ce sont tous des personnages oubliés et oubliables
Même si on n'était pas un amoureux du comic book, mais il y a des noms qui reviennent à l'oreille. C'est des noms qui faisaient partie du classique, de la liste des super-héros.
Mais ces autres personnages-là, à part Superman...
Marco Polo et autres.
Ouais, Marco Polo, ça c'est une autre façon de c'est un personnage connu.
Oui.
Mais les autres ne sont pas connus et ne sont jamais devenus populaires. Aucun ne se sont démarqués. Ils sont tous dans l'ombre de Superman.
Oui.
Et ils vont disparaître quelques mois plus tard. Ce ne sont pas des personnages...
C'est lui qui est resté vivant, quoi.
Exactement.
Voilà, oui.
Donc, comment ça commence, toute cette histoire-là de Superman et d'Action Comics numéro 1? Il faut revenir en janvier 1933. Il y a Jerry Siegel qui écrit une courte histoire intitulée « The Reign of the Superman », qui est illustrée par Joe Shuster et qui est publiée dans un magazine de science-fiction. Ça raconte l'histoire d'un méchant chauve qui fait de la télépathie. Par la suite, les deux ont l'idée de revamper le personnage de Superman, dont il devient héroïque, il devient puissant, il est envoyé sur Terre pour combattre les forces du mal. Et les deux tentent de vendre leur nouvelle idée aux journaux pour en faire un comic strip,
oui.
Mais il n'y a personne qui est intéressé. On dit qu'à l'époque, on n'en veut pas des personnages qui ont des pouvoirs, on n'en veut pas des personnages extraterrestres d'une autre planète, on veut des personnages vrais, des détectives, comme j'en ai parlé dans les dernières semaines. Donc, on se dit qu'un personnage qui vient d'ailleurs avec des pouvoirs, ça ne fonctionnera jamais.
Donc, au début, les éditeurs étaient hésitants.
Absolument. Ils n'en voulaient pas. Ils n'en voulaient pas, tout simplement. D'ailleurs, Shuster est complètement découragé. Il décide de brûler tous ses dessins et ses croquis de Superman.
Mais il l'a pas fait.
Mais Siegel a réussi à sauver une page des flammes.
Okay.
Et a réussi à le convaincre de persévérer, de ne pas abandonner l'idée du personnage. Les deux ont décidé de magasiner les maisons d'édition à partir de ce moment-là. Puis en 1937, après le succès de la nouvelle série Detective Comics que je vous ai parlé il y a quelques semaines, la National Allied Publications décide de créer un nouveau comic book basé sur l'action. La maison d'édition trouve qu'il faudrait que ça se fasse rapidement. Et comme le délai est assez serré, l'éditeur de l'époque décide de chercher dans leurs archives des bandes dessinées qu'ils ont déjà en banque. Il faut préciser qu'à l'époque, il y a plusieurs artistes qui soumettent aux maisons d'édition leurs publications, leurs écrits, leurs récits, mais la plupart restent sur les tablettes. Donc, ils ne sont jamais utilisés. Donc, c'est dans l'espoir qu'un jour, ils sont publiés.
C'est comme le jour, quand les gens voient le manuscrit d'édition.
Voilà.
Dans l'espoir de se voir édité, avoir son roman dans les librairies. Non, même pas de réponse.
Voilà.
Tout,
Voilà. En 1937, l'éditeur de l'époque tombe sur le comic strip de Superman et se dit, tiens, ça pourrait peut-être fonctionner. Donc, il demande à Siegel et Shuster s'ils peuvent former une histoire cohérente de 13 pages à partir de leur comic strip de Superman. Ils acceptent.
Oui.
Donc, la première aventure de Superman, c'est en fait une série de comic strips attachés ensemble Et disons que, je te le dis honnêtement, ça paraît à la lecture. C'est quelque peu décousu, on passe d'une scène à l'autre,
c'est
sans
normal,
véritable...
C'est le début.
C'est ça.
Voilà.
En plus, le personnage de Superman arrive de nulle part au tout début de l'histoire. C'est pourquoi Siegel et Schuster décident de créer une page d'introduction au personnage qui explique ses origines et ses pouvoirs. Mmh. Jerry Siegel et Joe Schuster ont été payés $10 par page pour un total de $130 pour leur travail pour le premier numéro.
Et à l'époque, c'était une fortune.
Absolument. Oui. Et comme je l'ai dit plus tôt, les 200 000 copies se sont vendues. Mmh. Et quelques mois plus tard, la série Action Comics atteignait les 1 million de copies vendues par mois. Et ouais. fait bizarre, ça a pris du temps à la maison d'édition pour réaliser que c'est le personnage de Superman qui fait vendre la copie. D'ailleurs, Superman apparaît sur seulement 4 des 12 premières couvertures de la série Action Comics. Comment on explique le succès du personnage?
Parce qu'on dit que ça
pognera pas, mais ça a fonctionné. Premièrement, le public cible. Jusqu'en 1938, le comic book s'adresse aux jeunes adultes et même aux adultes. Surtout à cause du contenu, j'en parlais dernièrement, donc les intrigues policières, les histoires violentes.
Oui.
À cause de leurs moyens de distribution, les comic books humoristiques, par exemple, du milieu des années 30 étaient offerts avec les journaux à l'époque, et on s'entend que les lecteurs de journaux sont majoritairement des adultes. Donc Action Comics numéro 1, c'est le premier comic book à s'adresser aux enfants et aux préadolescents et qui a été conçu en ce sens. Par son côté tape à l'œil d'un point de vue visuel,
oui.
et par son contenu qui est moins violent, moins macabre, moins adulte. Quand je parle du côté visuel, la couverture d'Action Comics numéro 1, on y montre Superman soulever à bout de bras une voiture, des gens en panique un peu partout autour.
J'aimerais bien être à côté. Hein?
Ouais, voilà, on voit sa force. Bref, c'est une scène d'action, bien sûr, pour Action Comics. Aujourd'hui, on regarde ça, puis on trouve ça tout à fait normal.
Oui.
Mais pour l'époque, c'était rare, parce que les couvertures des comic books des années 30 étaient généralement plus statiques, avaient peu de liens avec le contenu des publications. J'en parlais dernièrement avec Detective Comics numéro 1, il n'y avait pas d'image de détective sur Detective Comics.
Mm-hmm.
Et pour numéro 2, c'était du jamais vu. Un personnage qui est assez fort pour soulever une voiture à bout de bras, ça suscite la curiosité, le désir d'en savoir un peu plus sur le personnage.
Je vois quelqu'un qui attrape, qui prend sa tête comme ça, dit oh, qu'est-ce que je vois là?
C'est ça, il n'en revient tout simplement pas. En plus, la couverture contient aucune mention écrite sur qui
non,
est le personnage.
Juste le titre de voilà. Le numéro, l'année, le mois, et puis Action Comics, point.
Exact. Oui. Donc, à première vue, en voyant des gens qui visiblement sont en panique autour, le lecteur est en droit de se demander est-ce qu'il est possible que le nouveau personnage, c'est un méchant? Est-ce que c'est un envahisseur provenant d'un autre pays? Comment peut-il être aussi fort? Est-ce qu'il a été créé en laboratoire par un pays ennemi? Donc, il y a un aspect intriguant à la couverture. Et encore en lien avec la couverture, ce qu'on retrouve, les couleurs. Tant sur la couverture que dans la bande dessinée de Superman, ils sont très vives. Encore une fois,
oui,
les gens...
C'est flamboyant.
Voilà. Mm-hmm. Sont habitués à autre chose à l'époque. Des imperméables, des détectives sont toujours drabes, les scènes sont macabres. Et là, entre en scène un personnage avec une cape rouge, un uniforme bleu, un symbole sur la poitrine jaune et rouge.
Des chaussures rouges.
Il vit ses aventures le jour comme le soir, contrairement aux détectives qui ont des aventures nocturnes. Ça donne un côté très vivant à cause des couleurs utilisées et,
bien sûr,
des couleurs vives.
Très bon mélange de couleurs, d'ailleurs.
C'est ça. C'est évident que c'est pour rejoindre un public plus jeune.
Plus jeune, oui, à l'époque. Jaune, rouge, bleu,
voilà.
Tout ça. C'était vraiment... Ouais, non, c'est beau à voir.
L'action et les pouvoirs de Superman. Encore une fois, comme je le disais tantôt, c'est du jamais vu. Un personnage invulnérable. Les couteaux ne l'affectent pas. Les balles de fusil rebondissent sur son corps. Il court plus vite qu'une locomotive. Il peut sauter par-dessus un building de 20 étages. Et on veut en savoir plus sur un tel personnage. Et l'action, comme je le mentionnais plus tôt, est moins adulte. C'est pas aussi violent, pas aussi sanglant que les histoires de crimes de l'époque. Donc, l'adulte, parce qu'au préalable, c'est l'adulte qui se procure un comic book à l'époque, quand il se procure le comic book, il voit que ça s'adresse pas vraiment à lui, mais au lieu de s'en débarrasser, réalise que son fils va probablement aimer ça.
Il y a de la jeunesse dans la famille.
Ben voilà,
c'est
donc de cette façon que les enfants sont introduits au personnage de Superman.
Voilà.
Et c'est les enfants qui en redemandent. Un personnage avec une cape rouge, capable de sauter par-dessus les gratte-ciels.
Donc la popularité a commencé par là.
Voilà, les enfants. Quel enfant n'a jamais désiré ça, là?
Ah ouais.
Sauter par-dessus un gratte-ciel. En passant, Fulgent, j'ai bien dit sauter et non pas voler dans le ciel.
Sauter.
Car faut préciser, dans ses premières apparitions, Superman ne vole pas, il saute.
D'un immeuble à un autre.
Voilà. En fait, c'est à partir de 1940 qu'on décrit Superman capable de voler. Et la première fois que ça se produit, ce n'est pas dans un comic book, mais c'est à la radio. Ah, personnage très populaire à la radio à partir des années 40.
Comic book radiophonique.
Voilà. Des aventures de Superman sont diffusées à la radio à partir des années 40.
Et c'est dans... Sans image.
Absolument. C'est des radioromans, comme on appelle.
Oui, des radioromans. Voilà. OK.
Autre aspect qui peut expliquer le succès de Superman et d'Action Comics. D'ailleurs, il y a certains historiens du comic book qui croient que c'est la cause majeure du succès. Le triangle. Clark Kent, Lois Lane, Superman. Dès le départ, on établit que Superman a une identité secrète. Clark Kent, pour garder son identité secrète.
Ouais, à le voir, même on dirait, à le voir soulever cette voiture, on dirait qu'il a des pouvoirs mystiques, là.
Ben oui, mais il en a. Il en a, voilà. Mais on établit que Clark agit différemment de Superman. Superman est fort et sûr de lui. Clark est timide et faible. Clark est intéressé par Lois Lane, collègue de travail et journaliste avec une personnalité forte. Mais Lois trouve plus séduisant Superman, un vrai homme selon elle, sans savoir que Clark est aussi Superman.
Oui.
Donc on joue beaucoup avec ça, surtout avec le fait que Clark trouve injuste que Lois ne le voit pas de la même façon qu'elle voit Superman, alors que c'est la même personne.
Tu vois Lois ici qui se fait gifler par une femme ici, là. Ouais. Good for you, Lois.
Ouais, c'est une personnalité forte, Lois. C'est un personnage féminin très fort, Lois Lane.
Sinon, elle n'allait pas, pas se permettre de gifler Lois, là.
Donc, Clark trouve ça injuste, mais en même temps, il ne veut pas compromettre son identité secrète en agissant de la même façon que Superman. Mm. Il veut que Lois se rende compte de sa valeur alors qu'il est Clark. Mm. Et ça rejoint le lecteur, car qui ne s'est jamais senti rejeté, surtout quand on est adolescent? Mm. Rejeté pour une raison qu'on trouve injuste. Qui n'a jamais désiré pouvoir montrer qui on est vraiment dans l'espoir que la personne en face de nous tombe sous notre charme? Encore une fois, pour un adolescent, un préadolescent, ça vient les chercher. Donc, dès le départ, malgré un côté extraordinaire au personnage, ben, on vient toucher à des sujets et des émotions qui sont très réels. Et aussi, un autre aspect, il ne faut pas le renier celui-là, c'est Superman est un modèle de rêve américain. C'est une métaphore pour l'American Dream. C'est l'immigrant parfait. Il vient d'une autre planète, s'établit aux États-Unis et adopte les coutumes du pays.
L'immigrant parfait, oui.
Mais c'est un peu ça. À cause de ses pouvoirs, ses exploits, il parvient à s'accomplir et devenir un héros pour tous.
Oui.
Il véhicule le message de justice et d'espoir. Donc, cette métaphore du rêve américain vient chercher encore une fois les lecteurs. Surtout les enfants d'immigrants des années 20 et des années 30 aux États-Unis, ça leur envoie un message que tout est possible.
Tout est possible.
Donc,
tout est possible.
Bref, Superman capte l'imaginaire non seulement par son visuel, par ses pouvoirs, ses actions, mais aussi par ce qu'il sous-entend. Mm. Puis tiens, en terminant, quelques petites anecdotes ici, parce qu'on parlait de combien ça vaut un Action Comics numéro 1 aujourd'hui.
Oui.
Action Comics numéro 1 a établi plusieurs records de vente depuis les 12 dernières années.
Oui.
Le 22 février 2010, un exemplaire d'Action Comics numéro 1 a été vendu aux enchères pour $1 million. C'est le premier comic book à être vendu aussi cher.
Combien?
$1 million. Mais c'est pas fini. En 2014, Action Comics numéro 1, une copie de haut grade, a été vendue sur eBay pour 3...
Ça veut dire quoi ça? Une copie de haut...
C'est-à-dire une copie en bon état. En bon état.
OK.
Donc, en très bon état,
d'ailleurs. Pas du tout abîmé. Voilà. Bien conservé.
Donc, sur eBay, pour la modique somme de $3,207,852 américains. C'est le premier comic book à être vendu.
Quelle est la clientèle?
Ben, des collectionneurs, des gens qui ont beaucoup d'argent. Voilà. Donc, il y en a comme ça qui collectionnent. Et pour avoir un profit aussi, parce qu'il y en a qui achètent aujourd'hui et revendent plus tard, et ça fonctionne. Selon...
Comme les collectionneurs de tableaux. Quoi.
Voilà, mais j'arrive à un collectionneur, dans ma petite dernière anecdote, tu vas voir. Juste pour vous préciser, selon un article de l'Associated Press de 2021, on estime qu'il reste seulement une centaine de copies d'Action Comics dans le monde. Donc, sur les 200 000 premières copies, donc il en reste seulement une centaine. Juste donc, une centaine. Il y a un phénomène de rareté là, ici. Là. Il y a vraiment un phénomène de rareté.
Ça veut dire que celui qui nous écoute actuellement, qui a une copie là, de cette époque...
Si vous avez une copie à la maison, gardez-la précieusement. Même, et je vous dirais, même si la copie... par exemple, si la couverture est déchirée, là,
oui.
C'est pas grave. Vous allez pouvoir prendre votre retraite avec ça. En 2000...
Alors, est-ce que tu vois comment ma bouche est ouverte? Ouais, quand ouais, tu voilà. me parles de millions
mais j'en
comme
ai
ça
pas
avec
un,
ces millions.
Mais je n'ai pas une copie originale.
Ah oui, sincèrement, c'est, je me dis, fait, OK. Voilà.
Et en terminant, en 2000, l'acteur Nicolas Cage s'est fait voler ses copies d'Action Comics numéro 1, Detective Comics numéro 1 et Detective Comics numéro 27.
Pas, il savait pas que c'était de l'or, pas ça?
Il savait, mais il avait décidé d'encadrer ses copies et de les exposer dans son salon.
Est-ce qu'il recevait pas des gens chez lui?
Ben, j'imagine que oui. Alors, s'est fait dérober. Mais, 11 ans plus tard,
oui, ça a été retrouvé.
En mars 2011,
oui.
Sa copie d'Action Comics numéro 1 a été retrouvée.
Réapparaît parce que la personne a voulu la vendre.
Non, ça a été trouvé dans un casier de stockage de la vallée de San Fernando en Californie par hasard. Et on a établi que c'était la copie de Nicolas Cage. Il a pu reprendre sa copie. Et soit dit en passant, Nicolas Cage s'est procuré Action Comics numéro 1 en 1997. Il avait payé 150 000 $ et il l'a vendu en 2011 pour la modique somme de 2 161 000 $
Qu'est-ce qu'on fait de faux, nous autres?
Voilà.
Merci à toi, Christian.
Ça fait plaisir. Et tiens, à la semaine prochaine, je poursuis avec Superman.
Oui.
On va célébrer un anniversaire. En fait, on va célébrer deux anniversaires.
OK.
C'est le 30e anniversaire, la semaine prochaine, de la mort de Superman.
Je ne vais pas te demander de qui. Je me laisse surprendre.
Non, t'es la mort de Superman, les 30 ans. Et j'ai aussi...
Oh, tu vois comment je suis triste.
Ben ouais. Et... J'ai un anniversaire surprise aussi.
OK, d'accord. Merci à toi.
À la semaine prochaine.
Bon week-end à la semaine prochaine.
Bon week-end.
Merci, Christian.
Je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Les trains démarrent souvent au moment où on s'y attend le moins. Et l'histoire d'amour t'emporte sous l'œil impuissant des témoins. Les témoins, c'est tes potes qui disent au revoir sur le quai. Ils regardent le train s'éloigner avec un sourire inquiet. Toi aussi, tu leur fais signe et t'imagines leurs commentaires. Certains pensent que tu te plantes et que t'as pas les pieds sur terre. Chacun y va de son pronostic sur la durée du voyage. Pour la plupart, le train va dérailler dès le premier orage. Le grand amour change forcément ton comportement. Dès le premier jour, faut bien choisir ton compartiment. Siège couloir ou contre la vitre, il faut trouver la bonne place. Tu choisis quoi, une love story de première ou de seconde classe? Dans les premiers kilomètres, tu n'as Dieu pour son visage. Tu calcules pas derrière la fenêtre le défilé des paysages. Tu te sens vivant, tu te sens léger et tu ne vois pas passer l'heure. T'es tellement bien que t'as presque envie d'embrasser le contrôleur. Mais la magie ne dure qu'un temps et ton histoire bat de l'aile. Toi tu dis que tu n'y es pour rien et que c'est sa faute à elle. Le ronronnement du train te saoule et chaque virage t'écœure. Faut que tu te lèves, que tu marches, tu vas dégourdir le cœur. Et le train ralentit, c'est déjà la fin de ton histoire. En plus, t'es comme un con, tes potes sont restés à l'autre gare. Tu dis au revoir à celle que t'appelleras désormais ton ex. Dans son agenda, sur ton nom, elle va passer un coup de Tipex. C'est vrai que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Pour beaucoup, la vie se résume à essayer de monter dans le train, à connaître ce qu'est l'amour et se découvrir plein d'entrain. Pour beaucoup, l'objectif est d'arriver à la bonne heure, pour réussir son voyage et avoir accès au bonheur. Il est facile de prendre un train, encore faut-il prendre le bon. Moi, je suis monté dans 2-3 rames, mais c'était pas le bon wagon. Car les trains sont capricieux et certains sont inaccessibles. Et je ne crois pas tout le temps qu'avec la SNCF, c'est possible. Il y a ceux pour qui les trains sont toujours en grève. Et leurs histoires d'amour n'existent que dans leurs rêves. Et il y a ceux qui foncent dans le premier train sans faire attention. Mais forcément, ils descendront déçus à la prochaine station. Y'a celles qui flippent de s'engager parce qu'elles sont trop émotives. Pour elles, c'est trop risqué de s'accrocher à la locomotive. Et y'a les aventuriers qui enchaînent voyage sur voyage. Dès qu'une histoire est terminée, ils attaquent une autre page. Moi, après mon seul vrai voyage, j'ai souffert pendant des mois. On s'est quitté d'un commun accord, mais elle était plus d'accord que moi. Depuis, je traîne sur le quai, je regarde les trains au départ. Y'a des portes qui s'ouvrent, mais dans une gare, je me sens à part. Il paraît que les voyages en train finissent mal en général. Si pour toi c'est le cas, accroche-toi et garde le moral. Car une chose est certaine, il y aura toujours un terminus. Maintenant tu es prévenu. La prochaine fois tu prendras le bus.
Y a pas de recette pour supporter les épreuves, remonter le cours des fleuves quand les tragédies pleuvent. Y a pas de recette pour encaisser les drames, franchir les mers à la rame quand l'horreur te fait du charme. Y a pas de recette, toi t'en avais pas non plus. Personne t'avait prévenu, tu t'es battu comme t'as pu. Y a pas de recette quand l'enfer te serre la main. Abandonner cet humain, l'avenir c'est loin, mais tu t'es mise à chanter. Même pas par choix, comme à chaque chute, à chaque fois ça s'est imposé à toi. Chanter comme un enfant surpris, comme un instinct de survie, comme un instinct.
Merci beaucoup, Grand Corps Malade avec les voyages en train. Voilà. Je vais terminer en parlant de quoi? Je vais parler un peu de technologie parce qu'il y a l'Allemagne qui vient de se réveiller. Ils se sont fait taper sur les doigts là-bas avec une collaboration avec la Chine. Technologie des composants électroniques qui, utilisant des semi-conducteurs sur une carte mère d'un ordinateur. Elle a rejeté, avant-hier mercredi, la reprise de deux entreprises fabriquant des semi-conducteurs par des investisseurs chinois, parce que quoi? C'est Berlin craint pour ses intérêts stratégiques et veut durcir sa politique à l'égard de Pékin. Donc récemment, la décision positive approuvant une participation chinoise sur le port de Hambourg avait provoqué une vive polémique en Allemagne. Ça, tout le monde se dit, mais au fait, l'Allemagne est en train de se laisser infiltrer par la Chine ou bien quoi? Les gens n'étaient pas du tout d'accord. Le chancelier Scholz, il a pris cette décision malgré l'opposition contre l'avis de plusieurs de ses ministres. Alors cette fois-ci, il y a le ministre de l'économie, l'écologiste Robert Habeck, qui dit l'Allemagne reste ouverte aux investisseurs, mais ne sommes plus naïfs. Voilà, c'est ça. Il dit ça va pas. Il a rejeté l'achat de ces deux entreprises allemandes de semi-conducteurs. C'est le truc, les pièces qu'on trouve dans les ordinateurs, les cartes, mais les ordinateurs, tout est électronique là. Oui, Berlin estime que le rachat d'entreprises doit être examiné de près lorsque des infrastructures importantes sont en jeu ou lorsque le savoir-faire technologique risque d'être transféré vers l'étranger, surtout en Chine. Ouais, le gouvernement a établi cette feuille de route vis-à-vis de la Chine qui se veut plus restrictive que dans le passé. Les services de renseignement avaient déconseillé d'ailleurs une de ces deux acquisitions, cette histoire de port avec l'implication de la Chine. Ils se sont dit, mais où est-ce qu'on va avec ça? Où est-ce qu'on va avec ça? Ils ont pris des ports dans d'autres pays du monde où ils sont devenus propriétaires maintenant. J'imagine un peu la Chine propriétaire du port d'Hambourg. Alors là, il faut faire très attention. Bon, donc cette fois, l'accord sur ces dossiers n'a pas été accordé, l'accord n'a pas été fait. Donc la récente prise de participation chinoise dans l'un des terminaux du port d'Hambourg qui a été imposée par le chancelier. Voilà, il faut éviter les polémiques. Cette fois-ci, c'est le ministre de l'économie qui est un écologiste, Robert Habeck, qui a dit non, ça ne marche pas comme ça. En Allemagne, de toute façon, l'Allemagne est toujours gouvernée par des gouvernements de coalition. Majorité, là, ça n'existe pas là-bas. Les écologistes, les écolos, ils sont très forts. Ils sont toujours presque dans tous les gouvernements. Il y avait un autre gouvernement à l'époque où l'écologiste Joschka Fischer était le ministre des Affaires étrangères, un ancien chauffeur de taxi. Voilà, c'était une parenthèse que je voulais faire. Très, très, très cultivé. Il parlait plus d'une dizaine de langues. Ils sont rentrés au gouvernement à cette époque. Ouais, ils n'avaient jamais porté de costume, là. Il est devenu ministre, il a commencé à porter des costumes. Oui, mais quand on est ministre, on est obligé, on n'a pas le choix. Alors, j'ai encore une minute au moins. Deux. À la COP, là je vais revenir sur ça parce que je n'ai pas cinq minutes. C'est à la COP 27 qui se passe là en Égypte. Actuellement, ils sont là-bas pour deux semaines, hein, jusqu'au 18, si je ne me trompe pas. Il y a la Fédération internationale des droits humains. Il dit, quelle légitimité pour une COP 27 sous influence des multinationales dans un contexte de répression des défenseurs des droits humains et de désintérêt environnemental de la part du pays hôte. Ça, c'est, on se dit, mais ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'ils n'ont pas su avant de programmer l'Égypte? C'est pas hier qu'ils ont pris la décision que ça doit se passer là-bas en Égypte. Ouais, c'est un cadre paradisiaque pour un enfer environnemental et humain. Bon, ça, c'est clairement, je les comprends. Mais c'est comme laisser la Coupe du Monde de football organisée par le Qatar. Ce sport qui n'est même pas un sport standard dans ce pays. Là, maintenant, comme Myriam vient d'en parler, vient de nous informer, les supporters, ceux qui vont aller remplir les stades, sont obligés de faire des recrutements en dehors du Qatar. C'est un petit pays, voilà. Ils n'ont même pas de supporters de soccer, de football là-bas, donc il faut faire avec. Je vais revenir sur ce sujet d'ailleurs, de la Fédération internationale des droits humains. Donc, on sait qu'ils sont là-bas, tous les grands de ce monde sont réunis là-bas depuis le 6 novembre, mais je pense bien qu'aujourd'hui, Joe Biden a fait un discours, il a fait un petit crochet là-bas rapidement. Les États partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et ils sont réunis dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh, en Égypte, dans le cadre de cette 27e conférence des partis sur le climat qu'on appelle COP27. Alors que les éléments climatiques extrêmes s'intensifient un peu partout. Alors je reviendrai là-dessus la semaine prochaine parce que c'est un très beau dossier. Voilà, la Fédération internationale des droits humains donne son avis. Merci à toi Maurice Bolduc, belle régie. Et puis on se retrouve le lundi. Et je dis merci à Ivy qui est venue nous parler des 15 ans du slam québécois. Et puis merci à Myriam Larage, et merci à Christian Lacasse, et merci à Catherine Bourderon pour la recherche. On se retrouve, et vous, fidèles auditeurs et auditrices, je vous souhaite merci de votre fidélité, je vous souhaite une très belle fin de semaine, et on se retrouve lundi à la même heure sur les ondes de Canal M. Et sur ce, prenez soin de vos minutes, et tendez la main aux autres qui sont dans le besoin. Je vous dis ciao.